السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc la fois dernière, on s'est arrêté à la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Uhud. On a vu que le début de la bataille s'illustre par beaucoup de pertes dans le camp idolâtre, ce qui n'empêche pas non plus également des pertes dans le camp musulman. Et la deuxième chose par laquelle s'illustre le début de la bataille de Uhud, c'est que c'est une victoire, et ça va l'être d'autant plus, comme on va le voir aujourd'hui, même après l'assassinat et la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib. On avait parlé du fameux étendard que la tribu des Bani Abd al-Dar devait tenir haut dans le ciel, et que finalement 11 des Bani Abd al-Dar ont tenté de résister avec l'étendard, et à travers des duels, ils vont être décimés les uns après les autres, et 11 parmi eux vont mourir en quelques instants, à un tel point que finalement l'étendard des idolâtres, il va rester par terre. Ensuite, on a vu que Hamdalat ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, celui qui a été surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasil ou le Malaïka, celui qui a été lavé par les anges, on va pas revenir sur son histoire, on avait vu qu'il avait tenté d'achever et de mettre un terme à cette bataille qui avait très bien commencé pour les musulmans. Il avait tenté d'achever cette bataille en transperçant toutes les lignes du camp idolâtre pour accéder directement au chef, Abu Sufyan, pour le tuer et pour le défier en duel. Et alors qu'il commençait à avoir le dessus sur Abu Sufyan, un idolâtre, Shaddad ibn al-Aswad, qui était surnommé par les idolâtres Shaddad ibn Sha'oub, va venir et il va le tuer. Non. Ensuite, on a parlé de Hamza ibn Abd al-Muttalib, et c'est là où on s'est arrêté. On a dit que Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, s'illustre au début de la bataille par son combat, par sa bravoure, son courage. C'est celui qui est le plus craint parmi les combattants musulmans. Et qui dit le plus craint, il est également le plus détesté. Parce qu'il a un passif avec les idolâtres sur lequel on va parvenir, qu'on a déjà rappelé dernièrement. Donc Hamza ibn Abd al-Muttalib, il va être assassiné par Wahshi. Et on a raconté en détail ce que Wahshi nous raconte lui-même, bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand des tabi'i vont aller le voir et vont lui demander les détails de comment ça s'est passé. Et il va leur raconter, on a vu qu'il y avait plusieurs versions différentes. Il y a la version de Bukhari, l'authentique de Bukhari. On a dit qu'il y avait une version chez Abu Daoud Tayalisi. On a dit qu'il y avait une version chez Tabari, chez Ibn Ishaq, chez Ibn A'if. Mais qu'elles sont toutes faibles, sauf la première, évidemment, celle qui est chez le Bukhari, dans son authentique. Et on a vu que Wahshi raconte comment il l'a tué. Mais comment il l'a tué, ça fait une phrase. Et que tout le reste, plusieurs lignes, il raconte en détail ce qui va se passer pour lui après, qu'il va se réfugier à la Mecque, qu'il va retrouver sa liberté, qu'ensuite il va fuir à Taïf quand la Mecque elle sera libérée, puisqu'il est, pourchassé, recherché par les musulmans, puisqu'il est l'assassin de Hamza ibn Abdel Muttalib. Et finalement, il ira se convertir à l'islam à Médine. Le professeur Sam acceptera son islam, mais il lui demandera tout d'abord, est-ce que c'est bien lui qui a tué Hamza ? Il va lui dire pudiquement, ce qu'on t'a raconté, c'est vrai. C'est-à-dire, on t'a dit que c'était moi, c'est vrai. Non. Comme s'il n'ose pas dire directement, oui, c'est moi qui l'ai tué, parce qu'il n'aime pas revendiquer ça. Il sait que c'est pas bien, que c'est grave. Mais lui, il l'a fait surtout pour avoir en échange sa liberté. Ensuite, il explique que lorsqu'il va se convertir à l'islam, le professeur Sam, il va lui dire فَهَلْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي وَجَهَكَ. Est-ce que tu peux éloigner ton visage de moi ? Je ne veux pas te voir. Yani, marhaban, tu es le bienvenu dans l'islam, mais je ne veux plus avoir à faire à toi, yani, te voir. Parce que te voir, ça me rappelle que tu as tué injustement, lâchement, à l'époque où tu étais dans la jahiliya, Hamza ibn Abdel Muttalib, mon oncle, que j'aimais tant, et tu es là, tu vas marcher autour de moi. Donc, éloigne-toi de moi. Et c'est ce qu'il va faire, Wahshi. Il va partir vivre au Cham, à Hims, la ville de Hims, qui correspond, qui existe toujours, cette ville d'ailleurs, en Syrie actuelle. Fa'ala kulli hal, lorsque il va aller à vivre au Cham, donc bien des années plus tard, alors qu'il sera vieux, ces deux tabi'i vont venir le voir et vont lui demander des explications sur comment ça s'est passé. Donc il va leur raconter tout ça. Mais nous, ce qui nous intéressait ici, c'était une phrase dans laquelle il dit فَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ سَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَ مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحِرْبَةٍ فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهْدُ بِهِ. Il dit je me suis caché pour piéger Hamza. J'ai fait une embuscade, un piège à Hamza en me cachant derrière un rocher. فَلَمَّا دَنَا مِنِّي, lorsqu'il s'est approché de moi, il y en a du rocher, sans apercevoir Wahshi, parce que si Wahshi avait été le défi en duel, évidemment, il savait qu'il ne faisait pas le poids. Donc il s'est caché et a attendu le bon moment pour tirer. C'est-à-dire, Hamza ibn Abdel Muttalib ne pouvait absolument rien faire contre ça. Et donc il a dit, فَلَمَّا دَنَا مِنِّي, lorsqu'il était proche de moi, رَمَيْتُهُ بِحِرْبَتِي, je l'ai visé et j'ai tiré avec ma lance. فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ, et je l'ai ciblé, je l'ai planté. Fi thunnatihi, thunna, on a dit, c'est entre le nombril et les parties intimes. Hatta kharajat min bayni warikay. Donc, il l'a tué avec cette lance, et cette lance a transpercé le corps de Hamza ibn Abdel Muttalib, à un tel point qu'elle est sortie par derrière, par le postérieur. Non, bayna warikay, entre les deux hanches. Non, radiyallahu anhu. Il dit « فَكَنَ ذَلِكَ الْعَهْدُ بِهِ » c'est ce qu'il a tué. Et ensuite, il raconte ce qui va lui arriver. Non. À ce moment-là de la bataille, on pourrait penser que le fait que Hamza ibn Abdel Muttalib tombe, c'est le chef de l'armée à ce moment-là, le plus courageux, le plus craint, le plus respecté. On pourrait penser que sa mort, elle va démoraliser les troupes musulmanes. Au contraire, les musulmans vont s'inciter les uns et les autres. Ils vont dire, si Hamza, il a tant désiré mourir en martyr, et qu'il a eu la mort en martyr, alors ça doit rester un exemple et un modèle pour nous. Et donc au contraire, ils appellent à la vengeance de Hamza. Et donc ça galvanise encore plus les musulmans, et ça enfonce encore plus la défaite qui avait commencé dans le camp idolâtre. Non. Et là, Ce qui vient dire ça, c'est les versions des historiens. On n'a pas de narration. On en a. Je vais y venir tout à l'heure. Mais sur les détails, on a ce que les historiens nous expliquent. Je commencerai par l'historien et le savant Mubarak Fouri, qui a écrit le livre Ar-Rahiq al-Makhtoum, qui est traduit en français, qui est connu. C'est un des plus connus dans les ouvrages qui parlent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rahiq al-Makhtoum, il y a deux éditions de traduction. Il y en a un qui est traduit par le joyau ultime et l'autre qui est traduit par le nectar cacheté. Et dans son ouvrage, Al-Mubarak Fouri, lorsqu'il arrive à cet événement, il dit que malgré le fait que la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib, c'était un gros coup pour les musulmans, ils ont tenu la cadence et ils ont amplifié leur victoire contre le camp idolâtre. Et il cite même des noms. Il dit des compagnons se sont illustrés encore plus à ce moment-là. Dans cette phase du combat, ils se sont illustrés encore plus dans le combat, dans le courage, dans la bravoure. Il cite qui ? Il cite le compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il cite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il cite Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il cite Talha ibn Ubaidillah, qui, comme on va le voir plus tard, il va tellement s'illustrer dans cette bataille, il va tellement se prendre de graves coups d'épée, de lance, de flèche, et pourtant il va en réchapper de manière miraculeuse. C'est un miracle qu'il en réchappe. Que le professeur Hassan dira à propos de lui, celui qui veut voir un martyr marcher sur la terre, qu'il regarde Talha ibn Ubaidillah. C'est-à-dire, normalement, il devait être martyr, il devait mourir, lui. On ne sait pas comment il a fait pour revenir de Uhud. On verra en détail quand on parlera de Talha ibn Ubaidillah plus tard, à quel moment il va s'illustrer. Zubayr ibn al-Awwam, dont on a déjà parlé, dans un des duels, il a bondi sur le chameau et qu'il a fait tomber l'idolâtre qui voulait le duel, et qu'il l'a en un instant, et il l'a mis par terre et il l'a achevé. Al-Mubarak Fouri nous cite également Zubayr ibn al-Awwam dans cette phase du combat, juste après la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Tout comme il nous cite également le porte-étendard des musulmans. Parce que même si on a dit que l'étendard des idolâtres est à terre, l'étendard des musulmans, lui, il est encore haut dans le ciel. Et qui est-ce qui le porte depuis le début de la bataille ? Quelqu'un qui lui aussi appartient à la tribu des Bani Abdiddar, mais qui est musulman. Parce qu'on avait dit, la coutume, la tradition ancestrale chez les Arabes, c'est que l'étendard, c'est un honneur, un privilège qui revient à la tribu des Bani Abdiddar. La tribu des Bani Abdiddar, elle vit à la Mecque. C'est une des branches de la grande tribu Quraysh. Une des familles de Quraysh. Et Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, c'est un descendant des Bani Abdiddar. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit que les idolâtres continuent cette coutume et qu'ils donnent l'étendard au Bani Abdiddar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne aussi l'étendard des musulmans à un Bani Abdiddar. Dans son camp, c'est le compagnon Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, à ce moment-là, nous dit Mubarak Fouri, il va s'illustrer aussi par le courage, etc. Et on va bientôt le voir, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, il va perdre la vie. C'est un des premiers à perdre la vie après la phase où les archers vont quitter le mont. C'est un des premiers à perdre la vie, l'étendard va tomber, et c'est ce qui va, entre guillemets, être le point de la renverse, où la victoire des musulmans va se transformer en défaite, comme on le verra plus tard en détail. Mais en tout cas, à ce moment-là, juste après l'assassinat de Hamza, il s'illustre par le combat. Tout comme Mubarak Fouri nous cite également le compagnon Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu. Il nous cite également, pendant cette phase du combat, le compagnon Sa'd ibn Rabi', qui lui aussi va s'illustrer et il va aussi perdre la vie un peu plus tard, lorsqu'il va essayer de défendre le professeur Hassan, il va être laissé pour mort. Et le professeur Hassan va vouloir savoir ce qu'est devenu quelqu'un qui a mis son corps pour le défendre à un moment où on tentait d'assassiner, comme on le verra lorsque le prophète va tomber dans un tronc et qu'il sera envahi par des dizaines d'idolâtres. Il y a des compagnons qui vont donner leur corps. Ils vont mettre leur corps pour recevoir les coups de lance, de flèche à la place du prophète, comme on le verra plus tard. Et parmi ces gens-là, ces compagnons-là, c'est Sa'd ibn Rabi'a. À tel point que le prophète, après la bataille, quand ils vont aller voir sur le champ de bataille que sont devenus les musulmans, est-ce qu'il y a des blessés qu'on peut encore sauver, etc. Il va dire, cherchez Sa'd ibn Rabi'a, où est-il? Et les compagnons qui vont aller le voir, ils vont le trouver vivant, mais agonisant. Dans ses derniers instants de conscience avant sa mort. Et les compagnons vont lui dire, le professeur Hassan nous a demandé de venir voir si tu fais partie des morts ou des vivants. Et alors qu'il vit ses derniers instants, et il le sait, il en a conscience, il va dire, passez-lui le salam et dites-lui que je fais partie des morts. Non. Et après, c'est le mourra. Mais on verra ça en détail. Sa'd ibn Rabi' va, dans cette phase du combat, s'illustrer également. Radiallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh également. Sa'd ibn Ubadah. Et enfin, et s'il y a un nom qu'il faudra retenir de la bataille de Uhud, il y en a plein des noms qu'il faut retenir. Mais c'est, pourquoi il faut le retenir? Parce que les autres, j'ai envie de dire, beaucoup sont faciles à retenir, on les a déjà entendus. Il y en a un qui est méconnu, qui va s'illustrer dans cette phase du combat et qui va s'illustrer encore plus après. C'est Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu. Anas ibn Nadr. Un jeune compagnon de Médine, un jeune compagnon médinois, Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, qui lui aussi, il s'illustre dans cette phase du combat et il va s'illustrer encore bien plus après. Il va faire partie de ses compagnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont donner leur corps pour recevoir les dizaines de flèches, de lance, d'épée. Il y en a quand, à ce moment-là, quand le professeur Hassan va être pris en embuscade et qu'il va tomber dans ce trou, qui a été creusé par qui? Abu Amr al-Fasiq. On va le voir plus tard. Abu Amr al-Fasiq, on a vu, c'était qui? C'était quelqu'un qui avait trahi le professeur Hassan, qui était, c'est le père du compagnon qui est mort et qui est surnommé par le professeur Hassan, le lavé par les anges. Son père, c'était qui? On avait déjà dit plusieurs fois, c'est Abu Amr al-Fasiq. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a un plan. Il fait des trous dans le champ de bataille. Il a fait des trous où il essaye d'attirer, pendant la bataille, il essaye d'attirer les musulmans pour qu'ils tombent dans ces trous-là. Et c'est dans un de ces trous que le professeur Hassan va tomber. Non. Et donc, à la kulli hal, Anas ibn Nadr va s'illustrer à ce moment-là, mais cette partie, on la verra plus tard, comme j'ai dit. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont tous ces noms qui ont été cités, que je viens de citer, qui ont été cités par le Moubarak Fouri, qui vont s'illustrer pendant cette phase du combat, et qui vont s'illustrer bien plus tard également. Alors certes, des musulmans meurent. On a dit, Hamza ibn Abdel Muttalib est mort dans cette phase, il est mort là. Avant lui, Abdullah ibn Amr ibn Haram, c'est un des tout premiers, voire le premier selon certains textes, qui est mort à la bataille de Uhud parmi les musulmans. Hanzala ibn Abi Amir, et d'autres. Mais malgré ces morts, et malgré la perte importante qu'est la mort de Hamza ibn Abdel Muttalib, les musulmans tiennent la cadence et ils amplifient leur victoire. D'ailleurs, Ibn Ishaq, à chaque fois je vous dis la version d'Ibn Ishaq, vous entendez souvent le nom de ce savant, Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est un savant du hadith qui est né en l'an 80 de l'Hégire, et qui est mort en l'an 151. Et pour la petite histoire, subhanallah, il a presque exactement les mêmes années de naissance et de mort qu'Abu Hanifa. Abu Hanifa, c'est l'an 80, donc c'est la même chose. Et Abu Hanifa mort en 150 de l'Hégire. Alors qu'Ibn Ishaq, il mort en 151. Donc ils ont vécu à la même époque. Non. Ibn Ishaq, c'est, à son époque, c'est le savant le plus, c'est l'homme le plus réputé, le plus connaisseur de ce qu'on appelait à l'époque le marazi, les expéditions. Avant l'histoire, la biographie du professeur Hassan, on appelait ça comment? Le marazi, les expéditions, c'est-à-dire les histoires des guerres. Et c'est après que ça va se transformer en As-Sira, la biographie. Mais à l'époque, on ne donnait pas encore ce nom-là, on disait le Marazi. Non. Ibn Ishaq, il a connu des compagnons comme Anas ibn Malik. À son époque, il y avait encore Anas ibn Malik qui était vivant. Et donc Ibn Ishaq, ça va être le premier à faire un ouvrage qui regroupe les expéditions, ou en tout cas la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, ça s'appelait les expéditions, mais nous, on l'appelle Sirat ibn Hisham, la biographie écrite par Ibn Hisham. Et sous-entendu, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykoum salam. Et il faut savoir que Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Afwan, donc il fait cet ouvrage, et que un siècle plus tard, un savant qui s'appelle Ibn Hisham va venir et il va réécrire, recorriger ce livre. C'est-à-dire, il prend le livre de Ibn Ishaq, il prend juste les parties qui concernent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les compile dans un livre. C'est le travail de, entre guillemets, d'annotation ou de commentaire qui a été fait par Ibn Hisham. Pourquoi je vous parle d'Ibn Ishaq? Qu'est-ce qui nous intéresse chez Ibn Ishaq? C'est qu'Ibn Ishaq, il a fait comme un travail d'enquête. C'est ça le travail des muhaddithis. Il allait voir directement les tabi'i ou les compagnons qui étaient encore vivants, il leur posait les questions. Et il écrivait les narrations. Mais Ibn Ishaq, même si c'est un grand muhaddith, il est considéré comme modellis. C'est quoi un modellis? C'est quelqu'un qui, dans ses propos, quand il transmet des paroles des tabi'i ou des compagnons, il laisse penser qu'il les a entendus lui-même, mais c'est possible qu'il ne les a pas entendus lui-même, qu'il les a entendus en fait par un intermédiaire qu'il ne cite pas. C'est ce qu'on appelle un modellis. Et à cause de ça, il est jugé non fiable, sauf, avec Ibn Ishaq, il y a une règle, la règle dit, Ibn Ishaq, la yu'khadhu minhu, illa idha sarraha bit-tahdith. On ne prend pas les versions d'Ibn Ishaq, on ne les prend pas dans le sens, on ne les considère pas comme fiables et authentiques, sauf, idha sarraha bit-tahdith, sauf s'il dit de manière explicite qu'il a entendu d'un tel ou d'un tel. Mais quand il dit selon un tel, ça veut dire soit qu'il lui l'a entendu, soit que c'est quelqu'un qui lui a rapporté qu'un tel a dit. S'il dit un tel a dit, ça ne nous dit pas non plus que c'est vraiment lui qui l'a entendu. Par contre, s'il dit Sami'tu min fulan, j'ai entendu d'un tel, ou haddathani fulan, un tel m'a dit que, là oui. Wadih. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ouvrage d'Ibn Ishaq, dans les témoignages qu'il a rapporté Ibn Ishaq, on a des témoignages qui sont fiables et d'autres qui ne le sont pas. Mais alhamdoulilah, avec les siècles qui sont arrivés plus tard et les travaux des muhaddithin après lui, il y a eu un travail qui a été fait des authentificateurs pour voir ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, pour pouvoir faire la différence. Et ici, on a un témoignage d'Ibn Ishaq, justement, dans son ouvrage, où Ibn Ishaq nous dit que il a questionné ceux qui ont vécu à l'époque de Uhud et qui lui ont dit que dans cette phase du combat, à ce moment-là du combat, juste après la mort de Hamza, radiyallahu anhu, il dit ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ وَعْدَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Et ensuite, c'est-à-dire après la mort de Hamza, donc, le témoignage qu'il a, c'est Hamza a été tué et ensuite أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Allah a fait descendre sa victoire sur les musulmans. وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُ. Et il leur a donné son engagement, sa promesse, parce qu'Allah avait promis qu'ils allaient avoir les victoires, et donc il leur a donné. Nous, on va dire, non, ils l'ont perdu, on sait qu'après, ils vont perdre. Oui, mais à la base, il leur a donné la victoire, comme il leur a promis Allah, Azza wa Jal. Sauf qu'ensuite, il va se passer des choses. Hein? Certains compagnons vont faire des choses qui vont conduire, qui vont causer la défaite. Donc il dit, وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُمْ. Et Allah leur a donné la promesse qu'il leur avait, il a tenu la promesse qu'il leur avait donnée. وصدقهم وعده. فحسوهم بالسيوف. Et ils les ont, après la mort de Hamza, combattus avec leurs épées, tête à tête, corps à corps. حتى كشفوهم عن المعسكر. À un tel point qu'ils ont su les éloigner du camp. Ils avaient fait un camp, les idolâtres. Le camp, à quoi il sert? On met le camp, il sert là où pour se reposer, pour dormir, pour se préparer. Et ensuite, on sort l'armée du camp et on se met devant le camp des autres. Et on les combat. Et au cas où il y a un souci ou quoi, on peut se réfugier dans le camp. Le camp, il reste quoi? Il reste une base arrière. Dans lequel les belligérants, les ennemis d'en face, ils ne peuvent pas s'aventurer facilement. Parce que le camp, il est gardé, il est... Et là, qu'est-ce qu'il nous dit dans le témoignage Ibn Ishaq qu'il nous rapporte? Il nous dit « Hatta kashafouhum anil mu'askar » Et ils les ont tellement combattus à l'épée qu'ils ont même pu les éloigner du camp. C'est-à-dire de leur seul refuge. « Hatta kashafouhum anil mu'askar » Fakanatil hazima la shakka fiha. Et ce fut une défaite, un échec cuisant, il nous dit Ibn Ishaq. Pour qui? Pour les idolâtres. La shakka fiha. Aucun doute là-dedans. Ah, c'était une grande défaite pour eux à ce moment-là. À ce moment-là. Sauf que, comme on a dit, Ibn Ishaq, on ne peut prendre de lui que si, hein, il nous dit de manière claire, un tel m'a dit que. J'ai entendu un tel dire que. Eh bien, de toute façon, on n'a pas besoin de faire cette enquête. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres versions qui, elles, sont authentiques et elles ont été authentifiées, qui viennent conforter, appuyer cette idée, ce témoignage. Tout d'abord, Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, on a le témoignage du compagnon al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu. Qui dit, qui était un jeune compagnon à l'époque, le Bara ibn Azib radiallahu anhu, il nous dit que, donc c'est une version qui est dans l'authentique de Bukhari, donc elle est authentique, khlas. Il dit, harabu, en parlant des idolâtres, il dit, falamma laqinahum harabu. Et lorsque nous les avons, nous avons été à leur rencontre, harabou, ils se sont enfuis. Non. Hatta ra'aytun nisa'a, jusqu'à ce que j'ai vu les femmes, donc les femmes des idolâtres. On a expliqué qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient venues pour galvaniser les troupes des idolâtres. Hatta ra'aytun nisa'a yashtadidna fil jabal, à un tel point que j'ai vu les femmes grimper sur la montagne. Donc il dit, lorsque nous avons été à la rencontre des idolâtres, ils ont tous fui à un tel point que même leurs femmes, là, qui étaient venues, soi-disant, pour faire les poèmes et pour les galvaniser, même elles, elles se sont enfuies et je les voyais grimper sur la montagne. Yashtadidna ala al-jabal. Naam, yashtadidna fil jabal. Elles grimpaient sur les montagnes, tellement elles avaient peur. Et cette version, comme on a dit, elle est authentifiée par le Bukhari. Idem, cette version, elle vient confirmer le fait que dans cette phase du combat, c'est une débandade et c'est même une fuite et une débandade pour les idolâtres. Et d'ailleurs, on a un autre témoignage qui est rapporté par Ibn Ishaq, qui là, il l'attribue à qui? Il l'attribue à le compagnon Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et cette version, elle est également reprise par le savant du hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, dans son ouvrage Fath al-Bari, et il vient dire que cette version est authentique. Donc l'enquête elle a été faite par ce savant du hadith, et il l'a authentifié. Et lui, il nous dit quoi? Il nous dit que le compagnon, Zubayr ibn al-Awwam, il dit « Wallahi, laqad ra'aytuni anduru ila khadami Hind binti Utba wa sawahibatiha » مشمرات هواربة قد بدت خلاخلهن ما دون إحداهن قليل ولا كثير. Il dit, je jure par Allah, لقد رأيتني, que je me suis vu. Donc, Zubayr ibn al-Awwam, qui est dans la bataille de Uhud, il dit, je me suis vu, en train de regarder, انظروا, إلى خدم هند بنت عتبة, aux servants et servantes de Hind bint Utba. Hind bint Utba, c'est la femme d'Abu Sufyan, le chef des idolâtres. Et c'est elle la chef des femmes idolâtres qui sont là à Uhud. Il y a là des servants et des servantes qui sont à son service. Il dit, je me suis vu là au moment de la bataille de Uhud, en train de regarder Hind bint Utba et ses servantes, wa sawahibatiha, et ses amis, ses collègues, les femmes qu'elle a amenées avec elle de la Mecque. Ah. Il dit, je les ai vus, je les regardais. Mushammiratin hawariba. Mushammirat, ça veut dire elle retroussait les manches. Mais en vérité, ce n'est pas les manches qu'elle retroussait. Elle retroussait quoi? Les robes. Il y en a la version, je ne l'ai pas terminée, celle de l'Bukhari. La version de l'Bukhari disait, yashtadidna fil jabal, elle grimpait dans la montagne, yarfa'na an souqihim. Elle relevait sur leurs mollets, sur leurs chevilles. Elle relevait les habits. Pourquoi? Pour pouvoir mieux grimper, pour aller plus vite. Pour ne pas trébucher ou être freinée. Tellement elles avaient peur, elles relevaient et elles couraient. Aïwa. Et donc quand le compagnon Zubayr ibn al-Awwam nous dit « Mushammirat », elle retroussait quoi? Les robes. Les relevées. « Hawariba ». Tout en fuyant. Ma duna ihdahunna qalil wa la kathir. Il n'y avait pas entre elles ni beaucoup ni peu. C'est-à-dire la distance qu'il y avait entre chacune d'entre elles, elle était ni énorme, ni. Elles étaient éparpillées, sans être extrêmement éloignées. C'est ça qu'il veut dire. Naam. Il dit qad badat khalakhiluhum. Et on voyait. Leurs bracelets, le khalakhil, c'est les bracelets des pieds. Alors que l'asawir, c'est les bracelets, en arabe, l'asawir, c'est les bracelets qu'on met ici au poignet. Et le khalakhil, le pluriel de khalkhal, c'est les bracelets que les femmes mettent au niveau des chevilles. Et ça, c'était une habitude ancestrale chez les femmes arabes. Non. Il n'y a rien qui l'interdit pour la femme. Il n'y a rien qui l'interdit. Pour les hommes, il y a divergence. Mais pour la femme, il n'y a rien qui l'interdit. Aïwa. Mais la chose qui est intéressante ici, c'est juste une parenthèse, c'est que ce témoignage du compagnon Zubayr ibn al-Awwam, qui nous décrit cette scène, qu'il a vue, et il jure par Allah qu'il a vu ça, ça l'a marqué. Le détail qui l'a marqué, il dit, elles ont tellement relevé leur robe que j'ai vu, qu'on voyait les khalakhil, les bracelets qu'elles mettent au niveau des chevilles. C'est comme si il voulait dire c'est quelque chose que ça ne se fait pas. Même pour les femmes idolâtres, hein. C'était des femmes idolâtres, ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'elles avaient ces bracelets-là, mais elles les dévoilaient, elles les montraient que à leur mari ou aux proches de la famille. Là, elles étaient à l'extérieur, il y avait des étrangers qui les voyaient, donc elles avaient des vêtements qui cachaient ça. Donc elles n'attiraient pas l'attention. Et donc, ça l'a marqué. Alors certains vont dire non, peut-être qu'il ne fait que décrire la scène, ce n'est pas que ça l'a marqué ou ça l'a étonné, c'est juste qu'il décrit, voilà, elles ont relevé leur robe à un tel point que. Bien ce qui vient confirmer qu'en fait, si, ça l'a marqué, c'est pour ça qu'il le dit, c'est un verset du Coran, dans Surat An-Nur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du fait de baisser le regard, d'être pudique, hein, « Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim » dans Surat An-Nur, dit aux croyants de baisser le regard. Ensuite, dans le verset d'après, « Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin » wa yahfadna furujahun » et dit aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Et Allah Azza wa Jal, il donne les règles que les croyants doivent suivre, dans la pudeur, commencer à baisser le regard, préserver la chasteté. Il le donne également pour les femmes. Ensuite, il cite à qui elles ont droit de montrer les choses qu'elles doivent normalement cacher, de leur corps. Sauf Allah Azza wa Jal dit, sauf à leurs pères, à leurs frères, etc., les fils des frères, Mohimid Sit, tous ceux de sa famille à qui elle a le droit. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit quoi ? Vers la fin du verset, il dit, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, afin qu'on sache ce qu'elles cachent comme beauté, comme jouissance. C'est quoi la beauté qu'elles cachent dans les pieds ? C'est les bracelets. Mais on ne les voit pas. Elles mettent des habits. Mais certaines, à l'époque, parce que ça ne se faisait pas de les montrer, mais elles insistaient sur le fait de bien appuyer sur le pas pour qu'on entende. Ça fait gling-gling. Ah. Et donc, d'accord, les femmes idolâtres préservaient le regard, qu'elles cachaient, mais elles ne préservaient pas l'oreille. Et autant on peut être attiré par l'œil, à travers l'œil, et on peut aussi être attiré à travers l'ouïe. Et donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla. Et pourtant, dans le début du verset, Allah Azza wa Jalla dit à plusieurs reprises, « وَلَا يُبْدِينَ » qu'elle ne montre pas « زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنَهَا » sauf ce qui apparaît de manière naturelle, il y en a le visage et les mains. Ensuite, « وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ » et qu'elle ne montre pas ce qui attire, ce qui séduit, sauf à leur père, sauf à leur frère, etc. Et quand il parle des bracelets, qu'est-ce qu'il dit ?« وَلَا يَضْرِبْنَ » Il ne dit pas « وَلَا يُبْدِينَ » et qu'elle ne montre pas, parce que déjà, elle ne le montre pas. Ah. Donc ça indique qu'à l'époque, les femmes, la coutume, la tradition, même chez les idolâtres, on ne montre pas ces bracelets-là. Ça ne se fait pas. Mais le truc en plus que les idolâtres faisaient, que les musulmans ne devaient pas faire, donc Allah Azza wa Jalla ne leur a pas dit de ne pas montrer les bracelets parce que ça c'est acquis. Même chez les femmes idolâtres, on ne le montre pas, les bracelets des pieds. Ça ne se fait pas de montrer ça aux hommes. Parce que ça va l'attirer, ça va le séduire. Par contre, ce que les femmes idolâtres se permettaient, que les femmes musulmanes ne devaient pas se permettre, c'était ce qu'elle a attiré l'ouïe à travers ses bracelets, c'est-à-dire وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ et qu'elle ne frappe pas fort avec leurs pieds afin, dans le but qu'on sache ce qu'elle cache sous leur robe, hein, dans les pieds, comme bracelets qui viennent les rendre belles et les embellir. Aïwa. Donc, pourquoi j'ai fait cette parenthèse ? Pour bien expliquer que ce qui a marqué, subhanallah, Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, qui dit « Je jure par Allah que je me suis vu en train de les regarder et qu'elles étaient en train de fuir et de retrousser leur robe, de les relever à un tel point qu'on voyait leurs bracelets. » Alors que ça ne se fait pas normalement. Même elles ne le font pas. Mais tellement à ce moment-là, elles avaient peur. Elles cherchaient juste à fuir. C'est pas grave. Même ce qui ne se fait pas, il se fait. Sauf qui peut, comme dirait l'autre. La dernière chose que j'ai oublié de citer, sur laquelle on s'arrêtera aujourd'hui, que j'aurais dû citer avant, c'est qu'avant cette phase, juste après la mort de Hamza, et ça c'est quelque chose qui est cité, que j'ai retrouvé uniquement chez Al-Mubarak Furi, le livre Al-Rahiq Al-Maktoum. Il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il y a eu 3 tentatives de la cavalerie. Vous vous rappelez que la cavalerie idolâtre, 200 cavaliers, 200 chevaux, avec des combattants sur ces chevaux, qui se sont mis sur le côté de la montagne, qu'on va appeler plus tard le mont des archers. Le professeur Hassan, pour protéger le flanc, le côté de l'armée musulmane, qui peut être attaqué par cette cavalerie, il met sur le mont des archers 50 archers. À la tête de ces archers, il nomme le compagnon Abdullah ibn Jubayr. Pourquoi ce mont, il l'a appelé Jabal al-Rumat, le mont des archers ? Justement parce qu'il l'a appelé comme ça depuis la bataille de Uhud, depuis le moment où le prophète, il a désigné un certain nombre d'archers, les archers, ceux qui lancent avec, qui tirent avec les flèches, qui doivent se mettre sur la colline. Et le professeur Hassan leur a donné un rôle, un ordre, une seule mission, rien d'autre. Il leur a dit, surveillez cette cavalerie. Parce qu'on voit qu'ils vont essayer peut-être de prendre l'armée des musulmans par derrière pendant qu'ils combattront les idolâtres devant, ou de les prendre par le flanc, par le côté. Donc vous, votre seul travail, c'est surveiller-les. Et s'ils essayent de passer, empêchez-les. Et on nous dit, donc le Mubarak Furi nous dit que Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, mais à l'époque il était le chef de la cavalerie idolâtre, il va faire 3 tentatives pour faire passer la cavalerie pour attaquer, pour venir sauver les idolâtres, pour attaquer par derrière ou par le flanc, mais il n'y arrivera pas. Les trois tentatives, il va se résoudre à chaque fois à revenir. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils essaient de passer avec les chevaux en force, ils sont bombardés de haut, parce qu'ils sont, ils ont la position qui est stratégique, les archers, ils les bombardent avec les flèches. Et donc ils ne peuvent pas passer. Une pluie de flèches s'abat, qui les empêche de passer. Donc ils reviennent. Ils réessayent une deuxième fois. Les flèches, ils reviennent. Ils réessayent une troisième fois, et ils reviennent, et là, ils arrêtent les tentatives. Et c'est après ça qu'il y a la fuite et la débandade des idolâtres. Les idolâtres voient que la cavalerie n'arrive pas à passer, ils voient que leur étendard est par terre, qu'ils perdent des gens, que certains se sont permis d'essayer de transpercer les rangs et qu'ils sont prêts à mourir comme Hadar ibn Amir, même s'il faut transpercer les rangs pour essayer d'avoir un tête-à-tête avec Abu Sufyan. Donc ils commencent à fuir. Et à un tel point, comme on a dit, que l'armée des musulmans arrive à les éloigner de leur camp, qui peut être leur refuge, où ils vont reprendre des forces avant de réattaquer. Sauf que quand ils vont commencer à fuir, ils vont tout laisser derrière eux. Ils vont laisser en particulier leur butin. Et ceux qui gagnent, ils ramassent le butin. Et donc, comme c'est la fuite, c'est la débandade, mais ce n'est pas clair, est-ce que c'est la fin de la bataille ou pas encore ? Il n'y a personne qui a dit clairement « Stop, on arrête les combats ». Mais on peut penser que c'est la fin de la bataille, puisque les femmes, elles se sont enfuies dans les montagnes, les autres, ils commencent à s'enfuir par-ci, par-là, d'autres, ils essayent de résister autour d'Abu Sufyan, mais ce n'est pas évident. Donc certains pourraient penser que c'est fini. Et donc certains qui peuvent penser que c'est fini, ils commencent à prendre le butin. Et c'est là où la marmite, elle va être renversée. Où malheureusement, ce qui commençait à se dessiner comme une grande victoire va se transformer en une défaite pour le camp des musulmans. Et ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.